Bonjour à tous, il est midi 30 sur France Culture et tout de suite c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel. Bonjour Thomas.
Bonjour Maëlys. Le comité central d'entreprise de l'enseigne Conforama qui devait se réunir ce matin pour la présentation d'un plan de 1900 suppressions de postes en France ne se sera finalement pas tenu faute de la présence des syndicats. L'ensemble des élus du personnel a décidé pour sa part de se rassembler devant le siège social du groupe pour dénoncer un plan aussi massif que violent. Depuis ce matin, les soignants des urgences sont à nouveau appelés à manifester à Paris. Objectif, maintenir la pression sur le gouvernement. De profondes divisions semblent persister ce matin encore entre les dirigeants européens et ce au troisième jour déjà de leur sommet à Bruxelles sur la nouvelle équipe amenée à diriger l'Union européenne. Enfin, et même si le calme est revenu aujourd'hui dans les rues de Hong Kong, l'occupation et le saccage d'une partie du Parlement hier par des manifestants constituent bel et bien un défi sans précédent à l'autorité de Pékin. Et puis à 12h15, Maëlys Besserey, ce sera la grande table d'été.
À 12h45, ce sera la grande table, absolument. Nous allons parler du documentaire et du film en réalité virtuelle de Molécules et Yann Kounen. Moins 22,7 avant de faire le portrait de la réalisatrice Claire Devers.
Merci Maëlys, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Si le début des soldes d'été est généralement synonyme de bonnes affaires, l'annonce hier par Conforama de la liquidation de 1900 postes en France assortie de la fermeture de quelques 32 magasins est surtout synonyme, elle, de mauvaise gestion. En l'occurrence, un scandale financier lié à des irrégularités comptables à l'origine d'une grave crise de liquidité. Mais surtout, quand bien même le spécialiste de l'ameublement avait certes annoncé au printemps dernier déjà qu'un plan de restructuration était en cours de préparation, personne n'imaginait sans doute qu'il pourrait impacter autant de salariés. 1900 postes, c'est quasiment un quart des 9000 salariés du groupe dans l'Hexagone. Alors, ce matin, un comité central d'entreprise devait avoir lieu au siège du groupe afin d'y présenter les détails de ce plan et en particulier les mesures d'accompagnement. Mais faute de participation des syndicats, eh bien, le CCE ne s'est finalement pas tenu. Quoi qu'il en soit, la direction dit aujourd'hui vouloir optimiser le fonctionnement de l'entreprise. C'est en effet généralement l'expression utilisée pour justifier un plan social. Pour autant, il n'est sans doute pas inutile de rappeler comment donc le groupe d'ameublement en est arrivé à une telle situation. Hélène Fromanti, bonjour.
Bonjour à tous.
Plusieurs facteurs expliquent qu'on en soit arrivé là aujourd'hui, parmi lesquels la transformation profonde du commerce traditionnel, mais aussi les difficultés de la maison mère, Steinhoff, une société sud-africaine, Hélène, propriétaire aujourd'hui de Conforama.
Oui, ce puissant fabricant de meubles sud-africains a racheté Conforama en 2011. Steinhoff, c'est aujourd'hui plus de 40 enseignes, 6500 magasins dans une trentaine de pays. Mais un jour, tout bascule pour le conglomérat. En décembre 2017, Steinhoff reconnaît des irrégularités comptables, un trou de 6 milliards d'euros dans ses finances, résultat de malversations d'anciens dirigeants du groupe. Englué dans ce scandale, le propriétaire de Conforama se bat pour sa survie. Steinhoff tente de se débarrasser de tous ses actifs, parmi lesquels un certain showroom privé. Conforama et showroom privé ont en effet fait alliance un peu plus tôt en 2017. Alliance entre une enseigne de commerce physique et une plateforme en ligne pour mieux résister aux géants du e-commerce. Mais ça, c'était avant le scandale financier. Au bord de la banqueroute, la maison mère de Conforama finit par brader showroom privé à Carrefour. Une bouffée d'air pour le Sud-Africain, qui se débarrasse aussi d'actifs à l'international et qui lance un plan de refinancement pour Conforama. Mais ce n'est pas suffisant. En mai dernier, Steinhoff dévoile des résultats annuels dans le rouge avec une perte d'1,2 milliard d'euros pour 2018.
Et puis, outre ces soucis financier, donc Hélène, Conforama est aussi victime aujourd'hui de la concurrence croissante du e-commerce.
Les magasins physiques sont en train de basculer vers le numérique, mais pour l'instant, ils sont en retard face à des enseignes comme Amazon. Amazon qui, hasard du calendrier ou non, annonce la création de 1800 postes en France cette année. Enfin, on ne peut pas nier que Conforama pâtit d'une image populaire plutôt âgée, limite ringarde. Pour se moderniser et attirer une clientèle plus féminine, plus jeune, plus connectée, l'enseigne a refondu son offre ces derniers mois avec plus de décoration, de cuisine et de literie. Pas évident face au Suédois Ikea et face au Français Butz. Butz qui s'est dit à plusieurs reprises intéressé pour racheter Conforama.
Merci Hélène Fromanti. L'arrêt des traitements de Vincent Lambert, patient tétraplégique en état végétatif depuis plus de 10 ans, a repris ce mardi. C'est ce qu'a annoncé ce matin à la famille le médecin du CHU de Reims. La cour de cassation avait ouvert la voie à ce nouvel arrêt des soins vendredi dernier en cassant l'arrêt de la cour d'appel qui ordonnait le maintien des soins vitaux prodigués à Vincent Lambert. Après plus de 3 mois de grève et en dépit des réponses apportées par la ministre de la Santé, les soignants des urgences sont à nouveau appelés à battre le pavé aujourd'hui, une dernière ligne droite selon les syndicats pour maintenir la pression, disent-ils, sur le gouvernement et tenter d'étendre le mouvement à tout l'hôpital d'ici à la rentrée. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sur place devant le ministère des Finances où a lieu donc depuis ce matin une nouvelle mobilisation. En quoi, Tara, le déblocage, il y a maintenant 2 semaines, de quelques 70 millions d'euros par le gouvernement ne semble manifestement toujours pas suffisant pour stopper l'hémorragie?
Eh bien Thomas, l'essentiel de cette enveloppe est mangé par la prime de dangerosité offerte désormais à tous les personnels des urgences à l'exception des médecins, c'est-à-dire 100 euros net pour à peu près 30 000 agents. Ça pèse 55 millions d'euros dans l'enveloppe de 70 millions que vous venez d'évoquer, l'enveloppe de la ministre de la Santé. Mais on voit que ce geste sonnant et trébuchant n'est pas à la hauteur des revendications des grévistes. Ils demandent tout simplement 3 fois plus, 300 euros et sous forme d'une revalorisation salariale. Ils n'ont que ce mot à la bouche. Ils ne veulent pas d'une prime qui n'entrera pas dans le calcul de leur retraite. Et voilà pourquoi ils espèrent obtenir cet après-midi l'ouverture de négociations nationales. Et puis, les urgentistes veulent surtout des embauches pour éviter les attentes interminables infligées aux patients qui s'apparentent à de la maltraitance. La nuit dernière, un député communiste du Nord est allé incognito aux urgences à Douai. Il a passé 6 heures là-bas et à un moment donné, il y avait 14 brancards dans la même file que lui. Cette initiative fait beaucoup parler ici. On dit que 6 heures, finalement, il a eu de la chance. Alors, côté embauche, à la PHP, ça commence à bouger un peu. Martin Hirsch propose désormais 230 postes, alors qu'au début, il était parti sur une 60aine de postes. Mais en province, les négociations sur les postes sont au point mort. La ministre a mis 15 millions d'euros sur la table pour passer le cap toujours très délicat de cet été. 15 millions plus 55, ça fait 70 millions. Mais 15 millions, c'est juste 370 postes, a calculé la CGT. Sur 600 services d'urgence, on comprend bien la limite de ce geste. Ils sont donc venus assez nombreux aujourd'hui à Bercy, d'un peu partout, Toulon, Brest, Amiens, pour dire leur détermination. Et c'est sans doute la plus grosse mobilisation depuis au moins un mois et demi.
Merci Tara Schlegel en direct donc depuis ce rassemblement devant le ministère des Finances ainsi qu'à Marcos Darras pour les moyens techniques. Et la grève des services d'urgence au bord de la rupture en rappelle d'autres, qu'il s'agisse de celle des pompiers mais aussi celle des professeurs à ce titre et pour inciter le ministre à rouvrir des négociations sur les réformes du lycée et du bac. Et bien des groupes d'enseignants de plusieurs académies ont voté en assemblée générale une rétention des notes du bac de sorte qu'après la grève de la surveillance des épreuves du baccalauréat, certains correcteurs qui ont jusqu'à aujourd'hui pour envoyer les notes des candidats pourraient prendre leur temps et retarder donc l'annonce des résultats prévus vendredi prochain. Du moins, était-ce là l'idée? Car hier, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, a promis que chacun aura ses résultats en temps et en heure avant de préciser que si les copies ne sont pas restituées comme prévu jeudi, non seulement les professeurs s'exposeront à des sanctions très graves, mais aussi qu'ils seront considérés comme grévistes à partir du moment où ils ont retiré leurs copies, ce qui dans certains cas pourrait représenter jusqu'à 15 jours sans salaire. Des menaces disproportionnées selon Frédéric Rollet, le secrétaire national du SNES-FSU, jointe au téléphone par Hakim Kasmi.
Je trouve que c'est non seulement disproportionné, mais irresponsable. Les profs sont des gens qui aiment leur métier et qui aiment leurs élèves. Là, on les met dans une situation de métier empêché, avec des programmes qui vont être infaisables, avec des possibilités de groupe qui vont être diminuées, des disciplines qui sont menacées, un bac qui va supposer des tas d'évaluations pendant toute l'année. Donc, tout ça, on aurait pu quand même, et on devrait pouvoir encore en discuter. Donc, quand les profs décident, comme là, de retenir les notes, c'est parce que justement ils ont aussi épuisé d'autres modalités d'action auparavant, hein, des grèves, des pétitions, et qu'ils ont face à eux un ministre qui ne bouge absolument pas, qui n'écoute personne. Et c'est vrai que ça a été un crève-cœur pour des collègues de faire la grève de la surveillance le 17, c'était pour alerter l'opinion, de ce point de vue l'objectif a été atteint, et là c'est aussi pour eux une décision qui a été lourde à prendre, de retenir les notes et éventuellement d'aboutir à ce qu'il y ait un retard dans la publication des résultats du baccalauréat.
Voilà, Frédéric Rollet, secrétaire national du SNES-FSU, joint au téléphone par Hakim Kasmi. Eux n'ont toujours pas rendu leur copie. Ce sont les 28 chefs d'État et de gouvernement européens qui, après l'échec de leurs quelques 18 heures de marchandage, sont à nouveau réunis à Bruxelles aujourd'hui pour s'accorder enfin sur le quartet des postes clés de l'Union européenne. Depuis un peu plus d'une heure, la foire aux nominations a repris avec son lot de petits arrangements et autres contorsions afin de respecter des équilibres à la fois géographique, politique, mais aussi de représentation masculine et féminine. Pierre Benazet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Alors, on pourrait se rassurer, Pierre, en rappelant que la situation n'est pas pire au fond qu'en 2014, où il avait fallu pas moins de 3 sommets pour attribuer la présidence de la Commission. Sauf que le temps presse, car le nouveau Parlement européen ouvre, lui, sa session aujourd'hui, ce qui signifie, Pierre, que si les 28 échouent de nouveau aujourd'hui, eh bien, l'effet domino risque de se faire sentir jusqu'à Strasbourg.
Oui, effectivement, parce que c'est demain que le Parlement européen doit élire son président à partir de 9h à Strasbourg. On sait que les députés européens ne seraient pas fâchés de choisir sans dépendre de la décision des chefs d'État et de gouvernement. C'est d'ailleurs aujourd'hui la seule échéance pour les 28 qui ne veulent pas voir leur choix restreint par un choix du Parlement. Ce qui fait aussi, soit dit en passant, qu'ils disposent encore au pire de toute la nuit prochaine s'ils n'arrivent pas à trouver une solution avant le coucher du soleil aujourd'hui. Et pour l'instant, les dissensions d'hier semblent encore peser lourd, même si Angela Merkel affichait un optimisme plus large que lors de son arrivée dimanche. Elle parlait à l'instant du besoin de renouveler la créativité, de la nécessité pour chacun de bouger un peu, c'est-à-dire d'assouplir sa position. La créativité évoquée par la chancelière allemande fait penser à certains que de nouveaux noms pourraient apparaître, que le scénario du travailliste néerlandais Frans Timmermans à la présidence de la Commission serait dépassé. Ce sont les dernières rumeurs, en tout cas. Il faut dire que son nom rencontrait l'opposition frontale de l'Italie, des pays d'Europe centrale, le fameux groupe de Visegrad, Pologne et surtout Hongrie en tête. Tout à l'heure, c'est le premier ministre tchèque, Andrej Babiš, qui était de nouveau employé à torpiller sa candidature. On peut juste espérer que la créativité évoquée par Angela Merkel vaut aussi pour elle-même, puisque le scénario Timmermans semble issu d'un accord interne entre partis de la majorité de CDU et CSU en Allemagne pour garantir un poste à l'allemand Manfred Weber. Pour le moment, en tout cas, les 28 sont repartis dans leurs consultations en petits groupes, comme par exemple Emmanuel Macron, qui commence sa journée par un entretien avec les premiers ministres portugais et espagnols. La session plénière à 28 devait s'ouvrir à 11h, elle a été repoussée à 13h, et les dernières rumeurs évoquent l'abandon de Frans Timmermans pour la Commission, qui reviendrait tout de même à un PPE, cette présidence, le PPE, les conservateurs du Parti populaire européen.
Merci Pierre Benazet en direct de Bruxelles. Alors si on ne doute pas que les Européens finiront par trouver un accord, tout simplement parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, c'est vrai que cette tragique image d'une Europe impuissante risque non seulement de porter atteinte à la crédibilité de l'UE, mais aussi de prêter le flanc aux critiques en tout genre, et notamment de la part des populistes. C'est le cas notamment en Italie, dont la politique budgétaire expansionniste se retrouve aujourd'hui sous le feu des critiques de Bruxelles. La Commission européenne devrait d'ailleurs proposer aujourd'hui même aux gouvernements européens le lancement d'une procédure d'infraction contre Rome pour déficit excessif, ce qui, le cas échéant, serait une première pour un pays fondateur de l'UE, à moins que la révision in extremis hier soir du budget 2019 de l'Italie par la coalition populiste au pouvoir ne lui permette d'échapper à une telle procédure. Le calme est revenu ce matin à Hong Kong après l'intervention de la police la nuit dernière pour évacuer des manifestants qui s'étaient introduits dans le parlement de l'ancienne colonie britannique. Épilogue de cette nuit de chaos, la chef du gouvernement a convoqué tôt ce matin une conférence de presse avant de jurer de poursuivre les auteurs des dégradations. Toujours est-il que la crise qui secoue le territoire semi-autonome depuis près d'un mois a donc franchi un nouveau palier hier, au point que la presse officielle chinoise aux accents nationaux a décidé de s'en mêler et appelle ce matin une tolérance zéro. C'est une correspondance à Shanghai signée Simon Leplâtre.
Jusqu'ici, les Chinois pouvaient tout ignorer du mouvement de contestation historique qui secoue Hong Kong. Dans les médias chinois, rien sur les 2 millions de personnes descendues dans les rues pour dénoncer une loi d'extradition qui mettait les Hongkongais à la merci de la justice chinoise. Mais la courte occupation du Parlement de Hong Kong hier soir par des centaines voire des milliers de manifestants radicaux a changé la donne. Pour la première fois, des images ont été diffusées au journal télévisé chinois de la CCTV montrant l'arrivée de la police alors que les manifestants étaient déjà en train de quitter les lieux. Plusieurs articles ont aussi été publiés reprenant les condamnations du ministère chinois des Affaires étrangères ou décrivant les destructions du Parlement. Pas un mot évidemment sur la manifestation pacifique qui aurait rassemblé hier après-midi plus de 500 000 personnes. Car dans le récit de Pékin, la contestation ne peut être l'œuvre que d'une minorité d'extrémistes manipulés par des forces étrangères hostiles. Pour Pékin, ce mouvement populaire est très embarrassant puisque le régime communiste ne peut pas utiliser ses méthodes répressives sur cette île redevenue chinoise en 1997. Hong Kong reste un centre financier international qui perdrait son attractivité s'il se fermait sur lui-même, mais le changement de discours laisse présager une approche plus ferme des autorités contre la frange dure du mouvement.
Téhéran a annoncé hier avoir franchi la limite imposée à ses réserves d'uranium faiblement enrichies, telles que prévues par l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. Les pays européens et l'Iran s'étaient pourtant réunis à Vienne vendredi dernier afin de maintenir l'accord en vie. Sauf qu'après discussion, Téhéran a considéré que l'UE lui avait fait une offre d'aide commerciale trop minime pour le persuader de renoncer à dépasser la limite autorisée. Ce matin, la Chine a dit déplorer ce dépassement par l'Iran de la limite imposée à ses réserves d'uranium, tout en accusant Washington d'être la source des tensions actuelle. On termine avec un mot de météo. Le temps sera lourd et même orageux cet après-midi du sud-ouest jusque vers le massif alpin avec 14 départements toujours placés en vigilance orange pour canicule et 6 autres au même régime en raison cette fois-ci des orages. En revanche, sur la moitié nord du pays, là, le soleil s'imposera facilement dans une atmosphère beaucoup plus supportable. Quant aux températures, elles afficheront entre 23 et 37 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par François-Charles Domergue. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.